Chapitre 18. Le père de Lupa. Je m'appelle Silver Forestier, j'ai 36 ans et je suis psycho-écologue et prévisionniste. Si vous lisez ce journal, vous avez forcément lu avant celui de Pierre Solzarkis. J'ai décidé de le poursuivre, d'écrire ma version sur le même cahier. Après tout, comme ces feuilles, nous sommes liés. Les cinq résistants, réfugiés au quatrième étage du tipi, lisaient à tour de rôle. Zizo fut le premier, puis passa les feuilles à Sabi, qui les transmit à Alix, puis à Agnel, et enfin à Akan. Le vent baissait doucement d'intensité, mais la montgolfière de la Banque du Nouveau Monde avait disparu depuis plusieurs heures, sans espoir qu'un miraculeux vent contraire la ramène. Les cinq, pris au piège de la tour, évitaient de penser aux questions les plus critiques. Mano retenait-il toujours Vanille en otage? La grande argentière devait avoir un agenda plus rempli qu'un ancien président, on s'étonnerait forcément de son absence. Une vingtaine de gardes impériaux patrouillaient en permanence au pied du tipi. Quel choix avait-il à part attendre la nuit?
« Allez, petit barbare !» fit Sabi en donnant un coup de coude à Zizo. « La suite ! Tu ne sais plus lire ou quoi ?»
Zizo s'empressa de confier à Sabi la feuille qu'il tenait entre les mains et d'en attraper une nouvelle. Sans doute, vous demandez-vous à quoi peut bien servir un psycho-écologue et plus encore un prévisionniste. Un psycho-écologue étudie la relation entre la nature et nos cerveaux. Longtemps, les hommes se sont persuadés que les deux étaient séparés, indépendants. Ils se sont trompés. Nous ne sommes que des animaux un peu plus intelligents que les autres. En nous coupant de la nature, nous avons perdu notre odorat, notre ouïe, notre instinct, nos réflexes, mais aussi notre empathie, notre sens de l'entraide et de la solidarité. Au total, en devenant des êtres soi-disant civilisés, nous avons perdu beaucoup plus que nous n'avons gagné, et la Terre s'est vengée. Ça m'amène à mon second métier, prévisionniste. Cela consiste à imaginer le futur, mais pour vous avouer la vérité, je n'ai rien prédit depuis fort longtemps, à l'exception d'une unique certitude, je vais bientôt mourir. J'avais aussi prévu la fin du monde. Pas le plus difficile, me direz-vous, d'autant plus que je fais partie des quelques fous qui l'ont provoqué. Je répondrai que ce n'est pas tout à fait exact. Nous l'avons juste accéléré. Je suis à l'origine du projet NEO. J'ai scientifiquement prouvé à mes collègues du laboratoire Utopie que la fin de notre monde était inéluctable. Que nous devions l'anticiper, avant qu'il ne soit trop tard. Si vous me lisez, c'est que vous appartenez à l'un des clans des survivants. Alors peut-être pourrez-vous me pardonner. Nous nous sommes trompés. Nous avons échoué. Marie-Lune Zarkis était la directrice du laboratoire Utopie. Pierre Solzarkis et moi en étions les directeurs adjoints. D'autres nous ont suivis dans cette croisade diabolique. Des savants, des physiciens, des enseignants, une pédiatre, un nutritionniste, un architecte. Mais nous ne sommes que trois responsables, trois cerveaux à avoir tout programmé. Marie-Lune était la plus déterminée, la plus intelligente, mais aussi la plus folle d'entre nous. Elle était prête à tout sacrifier pour son arche de Néo. Pierre Sol était tout l'inverse, un idéaliste, humaniste, modéré, avant de devenir un saint quand il s'est mis en tête de sauver tous les enfants des rues qui pouvaient encore l'être. Moi, entre le démon et l'ange, j'étais seulement un type normal, du moins je le crois, ni pire ni meilleur qu'un autre, qui croyait pouvoir sauver la vieille peau ridée de la terre. Quand je me suis aperçu que c'était foutu, j'ai simplement voulu sauver ma peau, et celle de ma fille. Je vous passe les détails techniques, vous les connaissez sûrement déjà si vous avez survécu. La découverte de cette maudite météorite, baptisée si justement Pandorite, l'examen des phénoménales propriétés de ce nouvel élément atomique, les recherches classées top secret du laboratoire Utopie, et le projet qui germe, créer un nouveau monde, pouvoir le maîtriser, devenir à notre tour des dieux immortels. Nous avons sous-estimé beaucoup de paramètres. La puissance de la pandorite, l'importance de la respiration cutanée, le temps nécessaire pour la dispersion du nuage après la sublimation. Nous pensions que les masques et les combinaisons classiques suffiraient. Nous n'étions tout de même pas si inconscients. Nous avions mis au point un plan B, un antidote permettant de retarder les effets du nuage de Pandorium, le Thérapan. Il était basé sur le principe des vaccins à ARN messager et consistait à ingérer des doses infinitésimales de pandorite pour que le corps apprenne à se défendre. En avalant une pilule jaune de Thérapan, chaque semaine, on pouvait retarder la maladie de quelques mois ou même de quelques années. Je fais partie de ceux qui ont conçu le château. Nous l'appelions ainsi, le château. Ça lui allait bien. Les parents de la centaine de gamins qui étaient recueillis avaient tous payé une fortune pour que leur enfant survive. Une arche de Néo. Une fusée pour une nouvelle planète dont le ticket n'était accessible qu'à une élite. C'était ça, l'idée de Marie-Lune. Reconstruire le monde à partir d'une poignée de gosses qui avaient toutes les chances d'être les plus intelligents, les plus entreprenants, les plus forts, les plus doués, surtout s'ils étaient parfaitement éduqués. Pierre seul a craqué le premier. Il y avait trop de gosses dehors. On les voyait errer à travers la pyramide de verre, vêtus de haillons crasseux, fiévreux, pleurant, implorant, tombant. Des mendiants de 3 ans. Pierre Sol a abandonné le château après une énième dispute avec Marie-Lune. J'ai tenu encore quelques mois, jusqu'à ce que Léka tousse une dernière fois et s'endorme à jamais dans mes bras. Léka était la pédopsychiatre de l'équipe, l'une des plus brillantes du monde d'avant. C'est elle qui a mis au point le programme scolaire du château, conçu la plupart des vidéos ou développé la généreuse idée du sanctuaire. Nous nous étions rencontrés à la Sorbonne pendant notre thèse et nous ne nous étions plus jamais quittés. Je suis resté seul pour élever Céleste, notre fille unique. Nous n'avions jamais envisagé d'avoir d'enfant. J'étais tellement persuadé, en tant que prévisionniste, que le monde s'écroulerait avant même sa majorité. Céleste a été conçue en même temps que le projet Néo, pour qu'elle soit protégée du nuage dans le ventre de Léka, et naissent dans ce monde nouveau, pas celui du château. Je me rendais compte qu'enfermer les enfants dans une prison, même aussi dorée qu'un palais, n'avait aucun sens. Il aurait fallu faire le contraire, perdre un à un ses enfants dans la forêt façon petit pousset, les laisser se débrouiller, leur réapprendre à ne plus penser, juste sentir, ressentir, oublier toutes les connaissances et ne plus faire confiance qu'à leur sens. Personne ne m'a écouté. Personne ne m'a compris. Alors je suis parti. Seul. Avec Céleste. L'élever, loin de tous. En harmonie avec la nature. Redevenue vierge et pure. Il n'y avait qu'une condition pour que mon projet aboutisse. Je devais survivre assez longtemps pour tout enseigner à Céleste. Il n'y avait qu'une solution pour cela. Disposer d'un stock d'antidotes suffisant pour tenir pendant des années. Au moins jusqu'aux 8 ans de Céleste. Je ne devais avoir aucune hésitation, même si je savais qu'en emportant la moitié des dernières doses de Thérapan, je condamnais les adultes survivants du château. Ils étaient encore une dizaine alors à devoir se partager le maigre stock restant. Je ne faisais qu'abréger leur lente déchéance. Nous étions tous, de toutes les façons, condamnés.